Solange. Pendant le récit de M. Ledru, la nuit était tout à fait venue. Les habitants du salon n'apparaissaient plus comme des ombres, ombres non seulement muettes, mais encore immobiles, tant on craignait que M. Ledru ne s'arrêtât, car on comprenait que derrière le récit terrible qu'il venait de faire, il y avait un récit plus terrible encore. On n'entendait donc pas un souffle. Le docteur seul ouvrait la bouche. Je lui saisis la main pour l'empêcher de parler, et en effet, il se tut. Au bout de quelques secondes, M. Ledru continua. « Je venais de sortir de l'abbaye, et je traversais la place Tarane pour me rendre à la rue de Tournon, que j'habitais lorsque j'entendis une voix de femme appelant au secours. Ce ne pouvait être des malfaiteurs, il était 10 heures du soir à peine. Je courus vers l'angle de la place où j'avais entendu le cri, et je vis, à la lueur de la lune sortant d'un nuage, une femme qui se débattait au milieu d'une patrouille de sans-culottes. Cette femme, de son côté, m'aperçut, et remarquant à mon costume que je n'étais pas tout à fait un homme du peuple, elle s'élança vers moi en criant « Eh, tenez, justement, voici Monsieur Albert, que je connais. Il vous dira que je suis bien la fille de la mère Ledieu, la blanchisseuse. » Et en même temps, la pauvre femme, toute pâle et toute tremblante, me saisit le bras, se cramponnant à moi comme le naufragé à la planche de son salut. « La fille de la mère Ledieu, tant que tu voudras, mais t'as pas de carte de civisme, la belle fille, et tu vas nous suivre au corps de garde. » La jeune fille me serra le bras. Je sentis tout ce qu'il y avait de terreur et de prière dans cette pression. J'avais compris. Comme elle m'avait appelé du premier nom qui s'était offert à son esprit, je l'appelais, moi, du premier nom qui se présenta au mien. « Oh, certainement, c'est vous, ma pauvre Solange, lui dis-je, mais que vous arrive-t-il donc ?»« Ben là, voyez-vous, messieurs, reprit-elle. Il me semble que tu pourrais bien dire citoyen. Écoutez, monsieur le sergent, c'est point ma faute si je parle comme cela, dit la jeune fille. Ma mère avait des pratiques dans le grand monde, elle m'avait habitué à être polie, de sorte que c'est une mauvaise habitude que j'ai prise, je le sais bien. » Une habitude d'aristocrate, mais que voulez-vous, monsieur le sergent? Je ne puis pas m'en défaire. » Et il y avait dans cette réponse faite d'une voix tremblante une imperceptible raillerie que seul je reconnus. Je me demandais quelle pouvait être cette femme. Le problème était impossible à résoudre. Tout ce dont j'étais sûr, c'est qu'elle n'était point la fille d'une blanchisseuse. Oh, « Ce qui m'arrive, reprit-elle, citoyen Albert, voilà ce qui m'arrive. Imaginez-vous que je suis allé reporter du linge, que la maîtresse de la maison était sortie et que j'ai attendu pour recevoir mon argent qu'elle rentra. Dame, par le temps qui court, chacun a besoin de son argent. La nuit est venue, je croyais rentrer au jour. Je n'avais pas pris ma carte de civisme, et je suis tombé au milieu de ces messieurs, pardon, je veux dire de ces citoyens. Ils m'ont demandé ma carte, je leur ai dit que j'en avais pas, ils ont voulu me conduire au corps de garde. J'ai crié, vous êtes accouru justement, une connaissance. Alors j'ai été rassuré. Je me suis dit, puisque M. Albert sait que je m'appelle Solange, puisqu'il sait que je suis la fille de la mère Ledieu, il répondra de moi, n'est-ce pas, monsieur Albert? Certainement, je répondrai de vous, et j'en réponds. Bon, dit le chef de la patrouille, et qui me répondra de toi, monsieur le Muscadin? Danton, cela te va-t-il? Est-ce un bon patriote, celui-là? Oh, si Danton répond de toi, il n'y a rien à dire. Eh bien, c'est le jour de séance au cordelier, allons jusque-là. Allons jusque-là, dit le sergent. Citoyens sans culotte, en avant, marche! Le club des Cordeliers se tenait dans l'ancien couvent des Cordeliers, rue de l'Observance. Nous y fûmes en un instant. Arrivé à la porte, je déchirai une page de mon portefeuille, j'écrivis quelques mots au crayon et je les remis au sergent en l'invitant à les porter à Danton, tandis que nous resterions aux mains du caporal et de la patrouille. Le sergent entra dans le club et revint avec Danton. « Comment ?» me dit-il. « C'est toi qu'on arrête, toi ? Toi, mon ami, toi, l'ami de Camille ? Toi, des meilleurs républicains qui existent ? Alors donc, tu dois y un sergent, » ajouta-t-il en se retournant vers le chef des sans-culottes. « Je te réponds de lui. Cela te suffit-il ? Ben, tu réponds de lui, mais réponds-tu d'elle ?» reprit l'obstiné sergent. D'elle, de qui parles-tu? De cette femme, pardieu. De lui, d'elle, de tout ce qui l'entoure. Es-tu content? Oui, je suis content, dit le sergent, surtout de t'avoir vu. Oh, pardieu, ce plaisir-là, tu peux te le donner gratis. Regarde-moi toute ta tendresse pendant que tu me tiens. Merci. Continue de soutenir comme tu le fais les intérêts du peuple. Et sois tranquille, le peuple te sera reconnaissant. Oh oui, avec cela que je compte là-dessus, dit Danton. Veux-tu me donner une poignée de main? Continua le sergent. Oh, pourquoi pas? Et Danton lui donna la main. Vive Danton! Cria le sergent. Vive Danton! Répéta toute la patrouille. Et elle s'éloigna, conduite par son chef qui, à 10 pas, se retourna et, agitant son bonnet rouge, cria encore une fois « Vive Danton !» cri qui fut répété par ses hommes. J'allais remercier Danton lorsque son nom, plusieurs fois répété dans l'intérieur du club, parvint jusqu'à nous. « Danton ! Danton !» criaient plusieurs voix à la tribune. Non, « Pardon, mon cher, me dit-il, tu entends une poignée de main, laisse-moi rentrer. J'ai donné la droite au sergent, je te donne la gauche, et qui sait, le digne patriote avait peut-être la gale. » Il se retournant, « Me voilà, dit-il de cette voix puissante qui soulevait et calmait les orages de la rue, « Me voilà, attendez-moi !» Et il se rejeta dans l'intérieur du club. Je restais seul à la porte avec mon inconnu. « Maintenant, madame, lui dis-je, où faut-il que je vous conduise? Je suis à vos ordres. »« Madame, chez la mère le Dieu, me répondit-elle en riant. Vous savez bien que c'est ma mère. »« Mais où demeure la mère le Dieu? À rue Férou, numéro 24. » « Allô, chez la mère le Dieu, rue Férou, numéro 24. » Nous redescendîmes la rue des Fossés Monsieur le Prince, jusqu'à la rue des Fossés Saint-Germain, puis la rue du Petit Lion, puis nous remontâmes la place Saint-Sulpice, puis la rue Férou. Tout ce chemin s'était fait sans que nous eussions échangé une parole. Seulement, au rayon de la lune qui brillait dans toute sa splendeur, j'avais pu l'examiner à mon aise. C'était une charmante personne de 20 à 22 ans, brune, avec de grands yeux bleus, plus spirituelle que mélancolique, un nez fin et droit, des lèvres railleuses, des dents comme des perles, des mains de reine, des pieds d'enfant, tout cela ayant, sous le costume vulgaire de la fille de la mère le Dieu, conservait une allure aristocratique qui avait à bon droit éveillé la susceptibilité du brave sergent et de sa belliqueuse patrouille. En arrivant à la porte, nous nous arrêtâmes et nous nous regardâmes un instant en silence. « Eh bien, que me voulez-vous, mon cher monsieur Albert ?» me dit mon inconnu en souriant. Ben, « Je voulais vous dire, ma chère demoiselle Solange, que ce n'était point la peine de nous rencontrer pour nous quitter si vite. »« Mais je vous demande 1 million de pardons. Je trouve que c'est tout à fait la peine, au contraire. Attendu que si je ne vous eusse pas rencontré, on m'eût conduite au corps de garde. On m'eût reconnue pour n'être pas la fille de la mère Ledieu. On eût découvert que j'étais une aristocrate, et l'on m'eût très probablement coupé le cou. Ah, vous avouez donc que vous êtes une aristocrate? Non, moi, je n'avoue rien. Voyons, dites-moi au moins votre nom. Solange. Vous savez bien que ce nom que je vous ai donné à tout hasard n'est pas le vôtre. Oh, n'importe, je l'aime et je le garde, pour vous du moins. Et quel besoin avez-vous de le garder pour moi, si je ne dois pas vous revoir? Je ne dis pas cela. Je dis seulement que si nous nous revoyons, il est aussi inutile que vous sachiez comment je m'appelle, que moi, comment vous vous appelez. Je vous ai nommé Albert, gardez ce nom d'Albert, comme je garde le nom de Solange. Eh bien, soit, mais écoutez, Solange, lui dis-je. Je vous écoute, Albert, répondit-elle. Vous êtes une aristocrate, vous l'avouez. Quand je ne l'avouerai point, vous le devineriez, n'est-ce pas? Ainsi, mon aveu perd beaucoup de son mérite. Et en votre qualité d'aristocrate, vous êtes poursuivi? Ben, il y a bien quelque chose comme cela. Et vous vous cachez pour éviter les poursuites. Rue Férou 24, chez la mère Ledieu, dont le mari a été cocher de mon père. Vous voyez que j'ai pas de secret pour vous. Et votre père? Oh, je n'ai pas de secret pour vous, mon cher monsieur Albert, en tant que ces secrets sont à moi. Mais les secrets de mon père ne sont pas les miens. Mon père se cache de son côté en attendant une occasion d'émigrer. Voilà tout ce que je puis vous dire. Et vous, que comptez-vous faire? Partir avec mon père, si c'est possible. Si c'est impossible, le laisser partir seul et aller le rejoindre. Et ce soir, quand vous avez été arrêté, vous reveniez de voir votre père? J'en revenais. Écoutez-moi, chère Solange, je vous écoute. Vous avez vu ce qui s'est passé ce soir? Oui, et cela m'a donné la mesure de votre crédit. Oh, mon crédit n'est pas grand, par malheur. Cependant, j'ai quelques amis. J'ai fait connaissance ce soir avec l'un d'entre eux. Et vous le savez, celui-là n'est pas un des hommes les plus puissants les moins puissants de l'époque. Vous comptez employer son influence pour aider à la fuite de mon père? Non, 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 je la réserve pour vous. Et pour mon père? Pour votre père, oh, j'ai un autre moyen. Vous avez un autre moyen? S'écria Solange en s'emparant de mes mains et en me regardant avec anxiété. Si je sauve votre père, garderez-vous un bon souvenir de moi? Oh, je vous serai reconnaissante toute ma vie. Et elle prononça ces mots avec une adorable expression de reconnaissance anticipée. Puis, me regardant avec un ton suppliant, Mais cela vous suffira-t-il? Demanda-t-elle. Oui, répondis-je. Allons, mais je ne m'étais pas trompé, vous êtes un noble cœur. Je vous remercie au nom de mon père et au mien, et quand vous ne réussiriez pas dans l'avenir, je n'en suis pas moins votre redevable pour le passé. Quand nous reverrons-nous, Solange? Quand avez-vous besoin de me revoir? Demain, j'espère avoir quelque chose de bon à vous apprendre. Eh bien, revoyons-nous demain. Où cela? Ben, ici, si vous voulez. Ici, dans la rue. Eh mon Dieu, vous voyez que c'est encore le plus sûr. Depuis une demi-heure que nous causons à cette porte, il n'est point passé une seule personne. Et pourquoi ne monterais-je pas chez vous, ou pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi ? Parce que, venant chez moi, vous compromettez les braves gens qui m'ont donné asile, et parce qu'en allant chez vous, je vous compromets. Eh bien, soit, je prendrai la carte d'une de mes parentes et je vous la donnerai. Oui, pour qu'on guillotine votre parente, si par hasard je suis arrêté. Vous avez raison, je vous apporterai une carte au nom de Solange. À merveille, vous verrez que Solange finira par être mon seul et véritable nom. Votre heure, la même où nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, 10 heures, si vous voulez. Soit 10 heures. Et comment nous rencontrerons-nous ? Oh, ce n'est pas bien difficile. À 10h05, vous serez à la porte. À 10 heures, je descendrai. Donc, demain à 10 heures, cher Solange. Demain à 10 heures, cher Albert. Je voulus lui baiser la main. Elle me présenta le front. Le lendemain soir, à 9h30, j'étais dans la rue. À 10h15, Solange ouvrait la porte. Chacun de nous avait devancé l'heure. Je ne fis qu'un bond jusqu'à elle. Oh, « Je vois que vous avez de bonnes nouvelles, » dit-elle en souriant. « D'excellentes. D'abord, voici votre carte. »« D'abord, mon père. » Et elle repoussa ma main. « Votre père est sauvé, s'il le veut. »« S'il le veut, dites-vous, que faut-il qu'il fasse ?»« Il faut qu'il ait confiance en moi. »« Oh, c'est déjà chose faite. »« Vous l'avez vu ?»« Oui. »« Vous vous êtes exposé ?»« Que voulez-vous, il le faut, mais Dieu est là. »« Et vous lui avez tout dit à votre père ?» Bien, je lui ai dit que vous m'aviez sauvé la vie hier et que vous lui sauveriez peut-être la vie demain. Demain, oui, justement. Demain, s'il veut, je lui sauve la vie. Mais comment cela, dites, voyons parler. Quelle admirable rencontre aurais-je faite si tout cela réussissait? Seulement, dis-je en hésitant, eh bien, vous ne pourrez point partir avec lui. Mais quant à cela, ne vous ai-je pas point dit que ma résolution était prise? D'ailleurs, plus tard, je suis sûr de vous avoir un passeport. Mais parlons de mon père d'abord. Nous parlerons de moi après. Eh bien, je vous ai dit que j'avais des amis, n'est-ce pas? Oui. J'en ai été voir un aujourd'hui. Après? Un homme que vous connaissez de nom, et dont le nom est un garant de courage, de loyauté et d'honneur. Et ce nom, c'est Marceau. Le général Marceau? Justement. Ah, vous avez raison, si celui-là a promis, il tiendra. Eh bien, il a promis. Oh, mon Dieu, que vous me faites heureuse. Voyons, qu'a-t-il promis? Dites. Il a promis de vous servir. Mais comment cela? Oh, d'une manière bien simple. Kléber vient de le faire nommer général en chef de l'armée de l'Ouest. Il part demain soir. Oh, demain soir? Mais nous n'aurons le temps de rien préparer. Mais nous n'avons rien à préparer. Je ne comprends pas. Il emmène votre père. Mon père? Oui, en qualité de secrétaire. Arrivé en Vendée, votre père engage à Marceau sa parole de ne pas servir contre la France, et une nuit, il gagne un camp vendéen, et de la Vendée, il passe en Bretagne, en Angleterre. Et quand il est installé à Londres, il vous donne de ses nouvelles. Je vous procure un passeport et vous allez le rejoindre à Londres. Demain, s'écria Solange, mon père partirait demain. Oui, mais il n'y a pas de temps à perdre. Mais mon père n'est pas prévenu. Prévenez-le. Ce soir? Oui, ce soir. Mais comment à cette heure? Vous avez une carte et mon bras. Vous avez raison. Ma carte, je la lui donnai. Elle l'a mis dans sa poitrine. Maintenant votre bras. Je lui donnai mon bras et nous partîmes. Nous descendîmes jusqu'à la place Taran, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit où je l'avais rencontré la veille. Attendez-moi ici, me dit-elle. Je m'inclinai, j'attendis. Elle disparut au coin de l'ancien hôtel Matignon, puis au bout d'un quart d'heure, elle reparut. Venez, dit-elle, mon père veut vous voir et vous remercier. Elle reprit mon bras et me conduisit rue Saint-Guillaume, en face de l'hôtel Mortemart. Arrivée là, elle tira une clé de sa poche, ouvrit une petite porte bâtarde, me prit par la main, me guida jusqu'au deuxième étage et frappa d'une façon particulière. Un homme de 48 à 50 ans ouvrit la porte. Il était vêtu en ouvrier et paraissait exercer l'état de relieur de livres. Mais au premier mot qu'il me dit, au premier remerciement qu'il m'adressa, le grand seigneur s'était trahi. Monsieur, me dit-il, la Providence vous a envoyé à nous. Je vous reçois comme un envoyé de la Providence. Est-il vrai que vous pouvez me sauver, et surtout que vous voulez me sauver? Je lui racontai tout. Je lui dis comment Marceau se chargerait de l'emmener en qualité de secrétaire, et ne lui demandant rien d'autre chose que la promesse de ne point porter les armes contre la France. Cette promesse, je vous la fais de bon cœur, et je la lui renouvellerai. Je vous en remercie en son nom et au mien. Mais quand Marceau part-il? Demain. Dois-je me rendre chez lui cette nuit? Quand vous voudrez, il vous attendra toujours. Le père et la fille se regardèrent. Je crois qu'il serait plus prudent de vous y rendre ce soir, mon père, dit Solange. Soit, mais si l'on m'arrête, je n'ai pas de carte de civisme. Non, mais voici la mienne. Mais vous, oh, moi, je suis connu. Et où demeure Marceau? Rue de l'Université, numéro 40, chez sa sœur, Mademoiselle Desgraviers Marceau. M'y accompagnez-vous? Oh, je vous suivrai par derrière pour pouvoir ramener mademoiselle quand vous serez entrée. Mais comment, Marceau, saura-t-il que je suis l'homme dont vous lui avez parlé? Vous lui remettrez cette cocarde tricolore, c'est le signe de reconnaissance. Oh, mais que ferais-je pour mon libérateur? Oh, vous me chargerez du salut de votre fille, comme elle m'a chargé du vôtre. Allons. Il mit son chapeau et éteignit les lumières. Nous descendîmes à la lueur d'un rayon de lune qui filtrait par les fenêtres de l'escalier. À la porte, il prit le bras de sa fille, appuya à droite et par la rue des Saints-Pères, gagna la rue de l'Université. Je les suivais toujours à 10 pas. On arriva au numéro 40 sans avoir rencontré personne. Je m'approchai d'eux. C'est de bon augure, dis-je. Maintenant, voulez-vous que j'attende ou que je monte avec vous? Oh non, ne vous compromettez pas davantage. Attendez ma fille ici. Je m'inclinai. Oh, encore une fois, merci et adieu, me dit-il, me tendant la main. La langue n'a point de mots pour traduire les sentiments que je vous ai voués. J'espère que Dieu, un jour, me mettra à même de vous exprimer toute ma reconnaissance. Je lui répondis par un simple serrement de main. Il entra, Solange le suivit. Mais elle aussi, avant d'entrer, me serra la main. Au bout de 10 minutes, la porte se rouvrit. Eh bien, lui dis-je. Eh bien, reprit-elle, votre ami est bien digne d'être votre ami, c'est-à-dire qu'il a toutes les délicatesses. Il comprend que je serai heureuse de rester avec mon père jusqu'au moment du départ, et sa sœur me fait dresser un lit dans sa chambre. Demain, à 3 heures de l'après-midi, mon père sera hors de tout danger. Demain, à 10 heures du soir, comme aujourd'hui, si vous croyez que le remerciement d'une fille qui vous devra son père vaille la peine de vous déranger, venez le chercher, rue Férou. Oh, certes, j'irai. Votre père ne vous a rien dit pour moi. Il vous remercie de votre carte que voici et vous prie de me renvoyer à lui le plus tôt qu'il vous sera possible. Ce sera quand vous voudrez, Solange, répondis-je le cœur serré. Mais faut-il au moins que je sache où rejoindre mon père, dit-elle. Oh, vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. Je pris sa main et la serrai contre mon cœur. Mais elle me présentant son front comme la veille, à demain, dit-elle. En appuyant mes lèvres contre son front, ce ne fut plus seulement sa main que je serrai contre mon cœur, mais sa poitrine frémissante, mais son cœur bondissant. Je rentrai chez moi, joyeux d'âme comme jamais je ne l'avais été. Était-ce la conscience de la bonne action que j'avais faite? Était-ce que, déjà, j'aimais l'adorable créature? Je ne sais si je dormis ou si je veillais. Je sais que toutes les harmonies de la nature chantaient en moi. Je sais que la nuit me parut sans fin, le jour immense. Je sais que, tout en poussant le temps devant moi, j'eusse voulu le retenir pour ne pas perdre une minute des jours que j'avais encore à vivre. Le lendemain, j'étais à 9 heures dans la rue Férou. À 9 heures et demie, Solange parut. Elle vint à moi et me jeta les bras autour du cou. Sauvé, dit-elle, mon père est sauvé, et c'est à vous que je dois son salut. Oh, que je vous aime. 15 jours après, Solange reçut une lettre qui lui annonçait que son père était en Angleterre. Le lendemain, je lui apportai un passeport. En le recevant, Solange fondit en larmes. Vous ne m'aimez donc pas, dit-elle. Je vous aime plus que ma vie, répondis-je, mais j'ai engagé ma parole à votre père, et avant tout, je dois tenir ma parole. Alors, dit-elle, c'est moi qui manquerai à la mienne. Si tu as le courage de me laisser partir, Albert, moi je n'ai pas le courage de te quitter. Hélas, elle resta. Chapitre 7. Albert. De même qu'à la première interruption du récit de M. Ledru, il se fit un moment de silence. Silence mieux respecté encore que la première fois, car on sentait qu'on approchait de la fin de l'histoire, et M. Ledru avait dit que cette histoire, il n'aurait peut-être pas la force de la finir. Mais presque aussitôt, il reprit. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée où il avait été question du départ de Solange, et depuis cette soirée, pas un mot de séparation n'avait été prononcé. Solange avait désiré un logement rue Taranne. Je l'avais pris sous le nom de Solange. Je ne lui en connaissais pas d'autre, comme elle n'en connaissait pas d'autre qu'Albert. Je l'avais fait entrer dans une institution de jeune fille en qualité de sous-maîtresse, et cela pour la soustraire plus sûrement aux recherches de la police révolutionnaire, devenue plus active que jamais. Les dimanches et les jeudis, nous les passions ensemble dans ce petit appartement de la rue Taranne. De la fenêtre dans la chambre à coucher, nous voyions la place où nous étions rencontrés pour la première fois. Chaque jour, nous recevions une lettre, elle au nom de Solange, moi au nom d'Albert. Ces 3 mois avaient été les plus heureux de ma vie. Cependant, je n'avais pas renoncé à ce dessein qui m'était venu à la suite de ma conversation avec le valet du bourreau. J'avais demandé et obtenu la permission de faire des expériences sur la persistance de la vie après le supplice. Et ces expériences m'avaient démontré que la douleur survivait au supplice et devait être terrible. « Ah, voilà ce que je nie !» s'écria le docteur. « Voyons, » reprit Monsieur Ledru. « Nierez-vous que le couteau frappe à l'endroit de notre corps le plus sensible, à cause des nerfs qui y sont réunis? Nierez-vous que le cou enferme tous les nerfs des membres supérieurs, le sympathique, le vagus, le frémius, enfin la moelle épinière, qui est la source même des nerfs qui appartiennent aux membres inférieurs? Nierez-vous que le brisement, que l'écrasement de la colonne vertébrale osseuse ne produisent des plus atroces douleurs qu'il soit donné à une créature humaine d'éprouver? Soit, dit le docteur, mais cette douleur ne dure que quelques secondes. Oh non, c'est ce que je nie à mon tour, s'écria M. Ledru avec une profonde conviction. Et puis ne dura-t-elle que quelques secondes? Pendant ces quelques secondes, le sentiment, la personnalité, le moi, reste vivant. La tête entend, voit, sent et juge la séparation de son être. Et qui dira si la courte durée de la souffrance peut compenser l'horrible intensité de cette souffrance? Ce n'est pas pour faire de l'horrible à froid que nous nous appesantissons sur un pareil sujet. Mais il nous semble qu'au moment où l'on se préoccupe de l'abolition de la peine de mort, une pareille dissertation n'était pas oiseuse. Ainsi, à votre avis, le décret de l'Assemblée constituante qui a substitué la guillotine à la potence était une erreur philanthropique et mieux valait être pendu que décapité? Sans aucun doute. Beaucoup se sont pendus ou ont été pendus qui sont revenus à la vie. Eh bien, cela, on peut dire la sensation qu'ils ont éprouvée. C'est celle d'une apoplexie foudroyante, c'est-à-dire d'un sommeil profond sans aucune douleur particulière, sans aucun sentiment, d'une angoisse quelconque, une espèce de flamme qui jaillit devant les yeux et qui peu à peu se change en couleur bleue puis en obscurité lorsque l'on tombe en syncope. Mais en effet, docteur, vous savez cela mieux que personne. L'homme auquel on comprime le cerveau avec le doigt à un endroit où manque un morceau du crâne, cet homme n'éprouve aucune douleur, seulement il s'endort. Eh bien, le même phénomène arrive quand le cerveau est comprimé par un amoncellement du sang. Or, chez le pendu, le sang s'amoncelle d'abord parce qu'il entre dans le cerveau par les artères vertébrales qui, traversant les canaux osseux du cou, ne peuvent être compromises. Ensuite, parce que, tendant à refluer par les veines du cou, il se trouve arrêté par le lien qui noue le cou et les veines. Soit, dit le docteur, mais revenons à l'expérience. J'ai hâte d'arriver à cette fameuse tête qui a parlé. Je crus entendre comme un soupir s'échapper de la poitrine de M. Ledru. Quant à voir son visage, c'était impossible, il faisait nuit complète. « Oui, dit-il, en effet, je m'écarte de mon sujet, docteur. Revenons à mes expériences. » Malheureusement, les sujets ne m'en manquaient point. Nous étions au plus fort des exécutions, on guillotinait 30 ou 40 personnes par jour, et une si grande quantité de sang coulait sur la place de la Révolution que l'on avait été obligé de pratiquer autour de l'échafaud un fossé de 3 pieds de profondeur. Ce fossé était recouvert de planches. Une de ces planches tourna sous le pied d'un enfant de 8 ou 10 ans qui tomba dans ce hideux fossé et s'y noya. Il va sans dire que je me gardais bien de dire à Solange à quoi j'occupais mon temps le jour où je ne la voyais pas. Au reste, je dois avouer que j'avais d'abord éprouvé une si forte répugnance pour ces pauvres débris humains, que j'avais été effrayé de l'arrière-douleur que mes expériences ajoutaient peut-être au supplice. Mais enfin, je m'étais dit que ces études auxquelles je me livrais étaient faites au profit de la société tout entière, attendu que, si je parvenais jamais à faire partager mes convictions à une réunion de législateurs, j'arriverais peut-être à faire abolir la peine de mort. Au fur et à mesure que mes expériences donnaient des résultats, je les consignais dans un mémoire. Au bout de 2 mois, j'avais fait sur la persistance de la vie après le supplice toutes les expériences que l'on peut faire. Je résolus de pousser ces expériences encore plus loin, s'il était possible, à l'aide du galvanisme et de l'électricité. On me livra le cimetière de Clamart et l'on mit à ma disposition toutes les têtes et tous les corps des suppliciés. On avait changé pour moi en laboratoire une petite chapelle qui était bâtie à l'angle du cimetière. Vous le savez, après avoir chassé les rois de leur palais, on chasse à Dieu de ses églises. J'avais là une machine électrique et 3 ou 4 de ces instruments appelés excitateurs. Vers 5 heures arrivait le terrible convoi. Les corps étaient pêle-mêle dans le tombereau, les têtes pêle-mêle dans un sac. Je prenais au hasard 1 ou 2 têtes et 1 ou 2 corps. On jetait le reste dans la fosse commune. Le lendemain, les têtes et les corps sur lesquels j'avais expérimenté la veille étaient joints au convoi du jour. Presque toujours mon frère m'aidait dans ses expériences. Au milieu de tous ces contacts avec la mort, mon amour pour Solange augmentait chaque jour. De son côté, la pauvre enfant m'aimait de toutes les forces de son cœur. Bien souvent, j'avais pensé à en faire ma femme. Bien souvent, nous avions mesuré le bonheur d'une pareille union. Mais pour devenir ma femme, il fallait que Solange dît son nom, et son nom, qui était celui d'un émigré, d'un aristocrate, d'un proscrit, portait la mort avec lui. Son père lui avait écrit plusieurs fois pour hâter son départ, mais elle lui avait dit notre amour. Elle lui avait demandé son consentement à notre mariage qu'il avait accordé. Tout allait donc bien de ce côté-là. Cependant, au milieu de tous ces procès terribles, un procès plus terrible que les autres nous avait profondément attristés tous deux. C'était le procès de Marie-Antoinette. Commencé le 4 octobre, ce procès se suivait avec activité. Le 14 octobre, elle avait comparu devant le tribunal révolutionnaire. Le 16, à 4 heures du matin, elle avait été condamnée. Le même jour, à 11 heures, elle était montée sur l'échafaud. Le matin, j'avais reçu une lettre de Solange qui m'écrivait qu'elle ne voulait point laisser passer une pareille journée sans me voir. J'arrivais vers 2 heures à notre petit appartement de la rue Taranne et je trouvais Solange tout en pleurs. J'étais moi-même profondément affecté de cette exécution. La reine avait été si bonne pour moi dans ma jeunesse que j'avais gardé un profond souvenir de cette bonté. Oh, je me souviendrai toujours de cette journée. C'était un mercredi. Il y avait dans Paris plus que de la tristesse, il y avait de la terreur. Quant à moi, j'éprouvais un étrange découragement, quelque chose comme le pressentiment d'un grand malheur. J'avais voulu essayer de rendre des forces à Solange, qui pleurait, renversée dans mes bras, et les paroles consolatrices m'avaient manqué, parce que la consolation n'était pas dans mon cœur. Nous passâmes, comme d'habitude, la nuit ensemble. Notre nuit fut plus triste encore que notre journée. Je me rappelle qu'un chien, enfermé dans un appartement au-dessus d'une autre, hurla jusqu'à 2 heures du matin. Le lendemain, nous nous informâmes. Son maître était sorti en emportant la clé dans la rue. Il avait été arrêté, conduit au tribunal révolutionnaire. Condamné à 3 heures, il avait été exécuté à 4. Il fallait nous quitter. Les classes de Solange commençaient à 9 heures du matin. Son pensionnat était situé près du jardin des plantes. J'hésitais longtemps à la laisser aller. Elle-même ne pouvait se résoudre à me quitter. Mais rester 2 jours dehors, c'était s'exposer à des investigations toujours dangereuses dans la situation de Solange. Je fis avancer une voiture et la conduisis jusqu'au coin de la rue des Fossés Saint-Bernard. Là, je descendis pour la laisser continuer son chemin. Pendant toute la route, nous étions tenus, embrassés, sans prononcer une parole, mêlant nos larmes qui coulaient jusque sur nos lèvres, mêlant leur amertume à la douceur de nos baisers. Je descendis du fiacre, mais au lieu de m'en aller de mon côté, je restai cloué à la même place pour voir plus longtemps la voiture qui l'emportait. Au bout de 20 pas, la voiture s'arrêta. Solange passa sa tête par la portière comme si elle eût deviné que j'étais encore là. Je courus à elle, je remontai dans le fiacre, je refermai les glaces. Je la pressai encore une fois dans mes bras, mais 9 heures sonnèrent à Saint-Étienne-du-Mont. J'essuyai ses larmes, je fermai ses lèvres d'un triple baiser, et sautant en bas de la voiture, je m'éloignai tout courant. Il me sembla que Solange me rappelait, mais toutes ses larmes, toutes ses hésitations pouvaient être remarquées. J'eus le fatal courage de ne pas me retourner. Je rentrai chez moi désespéré. Je passai la journée à écrire à Solange. Le soir, je lui envoyais un volume. Je venais de faire jeter ma lettre à la poste lorsque j'en reçus une d'elle. Elle avait été fort grondée, on lui avait fait une foule de questions et on l'avait menacée de lui retirer sa première sortie. Sa première sortie était le dimanche suivant, mais Solange me jurait qu'en tout cas, dût-elle rompre avec la maîtresse de pension, elle me verrait ce jour-là. Moi aussi, je le jurais. Il me semblait que si j'étais 7 jours sans la voir, ce qui arriverait si elle n'usait pas de sa première sortie, je deviendrais fou. D'autant plus que Solange exprimait quelque inquiétude. Une lettre qu'elle avait trouvée à sa pension en y rentrant et qui venait de son père lui paraissait avoir été décachetée. Je passai une mauvaise nuit, une plus mauvaise journée le lendemain. J'écrivis comme d'habitude à Solange et comme c'était mon jour d'expérience, vers 3 heures, je passai chez mon frère afin de l'emmener avec moi à Clamart. Mon frère n'était pas chez lui, je partis seul. Il faisait un temps affreux. La nature, désolée, se fondait en pluie, de cette pluie froide et torrentueuse qui annonce l'hiver. Tout le long de mon chemin, j'entendais les crieurs publics hurler d'une voix éraillée la liste des condamnés du jour. Elle était nombreuse. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants. La sanglante moisson était abondante et les sujets ne me manqueraient pas pour la séance que j'allais faire le soir. Les jours finissaient de bonne heure. À 4 heures, j'arrivais à Clamart, il faisait presque nuit. L'aspect de ce cimetière, avec ses vastes tombes fraîchement remuées, avec ses arbres rares et cliquetant au vent comme les squelettes, était sombre et presque hideux. Tout ce qui n'était pas terre retournée était herbe, chardon ou ortie. Chaque jour, la terre retournée envahissait la terre verte. Au milieu de tous ces boursouflements du sol, la fosse du jour était béante et attendait sa proie. On avait prévu le surcroît de condamnés, la fosse était plus grande que d'habitude. Je m'en approchais machinalement. Tout le fond était plein d'eau. Pauvres cadavres nus et froids qu'on allait jeter dans cette eau froide comme eux. En arrivant près de la fosse, mon pied glissa et je faillis tomber dedans. Mes cheveux se hérissèrent. J'étais mouillé, j'avais le frisson. Je m'acheminais vers mon laboratoire. C'était, comme je l'ai dit, une ancienne chapelle. Je cherchais les yeux. Pourquoi cherchais-je ? Cela, je n'en sais rien. Je cherchais les yeux s'ils restaient à la muraille ou sur ce qui avait été l'autel, quelques signes de culte. La muraille était nue, l'autel était ras. À la place où était autrefois le tabernacle, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire la vie, il y avait un crâne dépouillé de sa chair et de ses cheveux, c'est-à-dire la mort, c'est-à-dire le néant. J'allumais ma chandelle, je la posais sur ma table à expérience, toute chargée de ces outils de forme étrange que j'avais inventés moi-même. Je m'assis, rêvant à quoi ? À cette pauvre reine que j'avais vue si belle, si heureuse, si aimée, qui, la veille, poursuivie des imprécations de tout un peuple, avait été conduite en charrette à l'échafaud, et qui, à 7 heures, la tête séparée du tronc, dormait dans la bière des pauvres, elle qui avait dormi sous les lambris d'or et les Tuileries de Versailles et de Saint-Cloud. Pendant que je m'abîmais dans ces sombres réflexions, la pluie redoublait, le vent passait en large rafale, jetant sa plainte lugubre parmi les branches des arbres, parmi les tiges des herbes qu'il faisait frissonner. À ce bruit se mêla bientôt, comme un roulement de tonnerre lugubre, seulement ce tonnerre, au lieu de gronder dans les nues, bondissait sur le sol, qu'il faisait trembler. C'était le roulement du rouge tombereau qui revenait de la place de la Révolution et qui entrait à Clamart. La porte de la petite chapelle s'ouvrit et deux hommes, ruisselant d'eau, entrèrent portant un sac. L'un était ce même Legros que j'avais visité en prison, l'autre était un fossoyeur. « Tenez, monsieur Ledru, me dit le valet du bourreau, voilà votre affaire. Vous n'avez pas besoin de vous presser ce soir. Nous vous laissons tout le Bataclan, demain on les enterrera. Il fera jour. Ils s'enrhumeront pas pour avoir passé une nuit à l'air. » Et avec un rire hideux, ces deux stipendiers de la mort posèrent leurs sacs dans l'angle près de l'ancien autel, à ma gauche, devant moi. Puis ils sortirent sans refermer la porte. Il se mit à battre contre son chambranle, laissant passer des bouffées de vent qui faisaient vaciller la flamme de ma chandelle, qui montait pâle et pour ainsi dire mourante le long de sa mèche noircie. Je les entendis dételer le cheval, fermer le cimetière et partir, laissant le tombeau plein de cadavres. J'avais eu grande envie de m'en aller avec eux, mais je ne sais pourquoi, quelque chose me retenait à ma place, tout frissonnant. Certes, je n'avais pas peur, mais le bruit de ce vent, le frottement de cette pluie, le cri de ces arbres qui se tordaient, les sifflements de cette terre qui faisait trembler ma lumière, tout cela secouait sur ma tête un vague effroi qui, de la racine humide de mes cheveux, se répandait par tout mon corps. Tout à coup, il me sembla qu'une voix douce et lamentable à la fois qu'une voix qui partait de l'enceinte même de la petite chapelle prononçait le nom d'Albert. Oh, pour le coup, je tressaillis, Albert, mais une seule personne au monde me nommait ainsi. Mes yeux égarés firent lentement le tour de la petite chapelle, dont, si étroite qu'elle fût, ma lumière ne suffisait pas pour éclairer les parois, et s'arrêtèrent sur le sac dressé à l'angle de l'autel, et dont la toile sanglante et bosselée indiquait le funèbre contenu. Au moment où mes yeux s'arrêtaient sur le sac, la même voix, mais plus faible, mais plus lamentable encore, répéta le même nom. « Albert !» Je me redressai froid d'épouvante. Cette voix semblait venir de l'intérieur du sac. Je me tâtai pour savoir si je dormais ou si j'étais éveillé. Puis, roide, marchant comme un homme de pierre, les bras étendus, je me dirigeai vers le sac où je plongeai une de mes mains. Alors, il me sembla que des lèvres encore tièdes s'appuyaient sur ma main. J'en étais à ce degré de terreur où l'excès de la terreur même nous rend le courage. Je pris cette tête, et revenant à mon fauteuil où je tombais assis, je la posai sur la table. Oh, je jetai un cri terrible. Cette tête, dont les lèvres semblaient tièdes encore, dont les yeux étaient à demi fermés, c'était la tête de Solange. Je crus être fou, je criai trois fois, « Solange, Solange, Solange !» À la troisième fois, les yeux se rouvrirent, me regardèrent, laissèrent tomber de larmes, et jetant une flamme humide comme si l'âme s'en échappait, se refermèrent pour ne plus se rouvrir. Oh, je me levais fou, insensé, furieux. Je voulais fuir, mais en me relevant, j'accrochai la table avec le pan de mon habit. La table tomba, entraînant la chandelle qui s'éteignit, la tête qui roula, m'entraînant moi-même éperdu. Alors il me sembla, couché à terre, voir cette tête glisser vers la mienne sur la pente des dalles. Ses lèvres touchèrent mes lèvres, un frisson de glace passa par tout mon corps. Je jetai un gémissement et je m'évanouis. Le lendemain, à 6 heures du matin, les fossoyeurs me retrouvèrent aussi froid que la dalle sur laquelle j'étais couché. Solange, reconnue par la lettre de son père, avait été arrêtée le jour même, condamnée le jour même et exécutée le jour même. Cette tête qui m'avait parlé, ces yeux qui m'avaient regardé, ces lèvres qui avaient baisé mes lèvres, c'étaient les lèvres, les yeux, la tête de Solange. Vous savez, le noir, continua M. Ledru, se retournant vers le chevalier, c'est à cette époque que je faillis mourir.